Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Canal Académie, vous le savez, qui consacre une série d'émissions spéciales sur le château de Versailles et la Galerie des Glaces dont la restauration vient de s'achever. La fameuse galerie est désormais ouverte au public, ceci depuis le 25 juin. Sur Canal Académie, vous pouvez retrouver l'histoire de la restauration de la Galerie des Glaces avec notre partenaire, Les Figaro hors-série, qui a consacré un de ses numéros à ce sujet. Autres émissions avec Mathieu Davina du Centre historique du château de Versailles, qui au cours de 4 reportages nous fait découvrir les lieux publics et privés du château de Versailles, la chambre du roi, les appartements de la reine Marie-Antoinette et les multiples salons en enfilade. Enfin, Mathieu Davina nous présente aussi ce que furent le confort et l'hygiène du château à l'époque de la monarchie moderne. Alors, au cours de cette nouvelle émission, je souhaiterais développer avec vous, chers auditeurs, une thématique indissociable du château en général et du règne de Louis XIV en particulier. Cette thématique, nous la retrouvons régulièrement sur nos écrans de télévision ou de cinéma, dans des films qui tentent, avec plus ou moins de succès, de retracer la vie quotidienne du roi à Versailles. Il s'agit du divertissement, autrement dit des fêtes, des cérémonies et autres représentations théâtrales. Quelle était la place de ces festivités à l'époque? Quelles en étaient leur nature, leur fréquence? Chacune possédait-elle une symbolique propre, un ou plusieurs messages politiques? Les festivités étaient-elles ouvertes au grand public ou au contraire réservées à une élite? Autant de questions auxquelles Jérôme Delagorce va nous répondre aujourd'hui. Jérôme Delagorce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, historien d'art et musicologue. Vos recherches ont concerné ou concerne autant l'opéra à Paris, et je dis bien l'opéra à Paris, au temps de Louis XIV, le dessinateur, vous avez étudié le dessinateur du roi Soleil, Bérin. Vous avez aussi reçu pour votre biographie de Jean-Baptiste Lully un prix de l'Académie des Beaux-Arts. Enfin, vous êtes l'auteur d'une autre biographie consacrée à un personnage peu connu et ô combien important du règne de Louis XIV. Il s'agit de l'intendant des plaisirs de Louis XIV, donc Carlo Vigarani. Que signifiait, Jérôme Delagorce, la charge d'intendant des plaisirs?
En fait, on ne trouve pas d'historique à propos de cette charge. Mais il se trouve que Carlo Vigarani a été qualifié de cette manière par Louis XIV parce qu'il a été chargé d'organiser au début du règne personnel de Louis XIV tous les divertissements du roi. Qu'il s'agisse des ballets, des fêtes, nous allons en parler, notamment à Versailles, et également des spectacles, évidemment. C'était un décorateur, un scénographe. Vous savez que c'était les Italiens qui étaient les spécialistes des fêtes et des spectacles, et c'est pour ça que Vigarani a fait sa carrière en France.
Alors justement, la France est allée chercher Mazarin en Italie, elle va aussi chercher ses artistes au-delà des Alpes.
Oui, et Mazarin a contribué justement à introduire non seulement l'opéra en France. Hein, je vous rappelle que l'opéra est un spectacle qui est né en Italie, un spectacle italien, on pourrait dire, par excellence. Et c'est Mazarin qui est véritablement a introduit l'opéra en France. Et il a fait venir de son pays natal des chanteurs, des auteurs de livrets, mais aussi des décorateurs de théâtre, des scénographes tout à fait talentueux. D'abord Giacomo Torelli, au moment de la Régence, et peu de temps avant le règne personnel de Louis XIV, au moment de la célébration de son mariage avec Marie-Thérèse, il a fait venir du duché de Modène les Vigarani, car Carlo Vigarani est venu, il n'est pas venu seul, il est venu avec son père, qui était déjà un architecte, un scénographe, un décorateur de fêtes extrêmement célèbre dans le duché de Modène.
Alors visiblement, c'est un art, l'art de la fête, un art italien, qui est un art qui évolue parce que vous écrivez dans votre biographie qu'en 1668, donc Vigarani est depuis de nombreuses années en France, eh bien Louis XIV renvoie Vigarani en Italie afin en quelque sorte qu'il se mette au courant des dernières grandes nouveautés.
Oui, ça c'est très intéressant. Au moment où Vigarani commence à être un peu... Vous savez qu'il y a eu une hostilité à l'égard des artistes italiens dans les années 1665, au moment où le fameux architecte Bernin arrive à Paris. Et vous savez que ça s'est mal terminé. Le Bernin est retourné dans son pays natal et son projet pour le Louvre n'a pas été retenu. Et Vigarani connaît ces difficultés. Il y a une certaine hostilité dans ces années-là à l'égard des artistes italiens. Et Louis XIV a toujours soutenu Carlo Vigarani, toujours jusqu'au bout. Et au moment où il a senti qu'il pouvait y avoir des contestations, il a envoyé Carlo en Italie pour qu'il se mette au courant des dernières techniques donc concernant les spectacles et surtout le théâtre. Et il l'a envoyé faire un voyage pour visiter donc tous les théâtres d'Italie, les équipements des théâtres. Et Carlo donc est parti. Et à son retour, il a évidemment mis en pratique ce qu'il avait vu et il a continué à être quand même le grand spécialiste de la décoration et des fêtes pendant un certain temps, on pourrait dire au moins jusque dans les années 1685.
Alors, cet art évolue. Cette charge nécessite vraiment de multiples talents et spécialités. J'ai essayé de prendre les qualificatifs ainsi que les différents noms. Architecte, cela nécessite également une connaissance des arts, de la musique, une connaissance parfaite du dessin. On est vraiment surpris par l'ampleur du travail que représente cette charge. Et au fond, Carlo Vigarani est quoi ? C'est un ingénieur ? C'est un architecte ?
Alors, en fait, c'est une formation. Une formation qui était courante en Italie, qui n'était pas habituelle en France. Et il faut dire que Carlo Vigarani a été formé très très bien par son père, qui, je le rappelle, était déjà un architecte et un scénographe très célèbre. Je ne pense pas qu'il pratiquait la musique et qu'il avait beaucoup de connaissances musicales, mais il avait des connaissances extrêmement précises concernant, donc, vous l'avez dit, c'était des architectes. D'abord, ils avaient des formations d'architectes. Carlo Vigarani est venu avec son père pour construire la grande salle des machines des Tuileries, qui n'existe plus actuellement, mais le point de départ, c'est la construction de la salle des machines des Tuileries. Donc, architecture théâtrale, également connaissance dans le domaine de la scénographie, du dessin, évidemment, de la perspective, du décor, et en même temps, il portait effectivement ce titre d'ingénieur, car ils avaient cette formation, on pourrait dire aujourd'hui, d'ingénieur en hydraulique. Il s'occupait également, Gaspare Vigarani, le père de Carlo, s'occupait également des canaux, de toutes les structures qui concernent l'eau dans les spectacles. Car même à Versailles, si Carlo Vigarani ne s'est pas mêlé des fontaines, il a profité des aménagements extraordinaires qui ont été donc effectués pour le parc de Versailles. Et il en a profité pour en tirer parti lors de la fameuse fête de 1668 dont vous avez parlé. Il y avait au milieu du spectacle de Georges Dandin de Molière, tout d'un coup, des fontaines qui jaillissaient sur la scène. Et on voit dès 1661, quand on monte le ballet des saisons dans le parc de Fontainebleau, donc quand Fontainebleau était encore la résidence préférée des courtisans pour passer la belle saison, eh bien Vigarani imagine un théâtre qui se déplace, un théâtre portable, avec en même temps une possibilité de créer des jets d'eau pendant tout le spectacle pour rafraîchir non seulement les interprètes, mais aussi les spectateurs sans les mouiller. C'est bien précisé. Donc, et avec un système de récupération qui faisait que finalement on ne perdait jamais l'eau et l'eau était réutilisée pendant tout le spectacle.
Oui, donc on imagine les qualités techniques que l'on doit mettre en œuvre pour installer ce genre de système. Et c'est la charge de Carlo Vigarani. Alors, je voudrais tout de même, Jérôme Delagorce, revenir sur la thématique générale du divertissement. Bon, on se doute que le XVIIe n'invente pas le divertissement. C'est une chose qui existe depuis plusieurs siècles. Est-ce que l'époque de Louis XIV a une particularité dans ce divertissement?
Je crois que on peut dire qu'au XVIIe siècle, il y a eu un développement des divertissements. On parle de l'époque baroque, comme vous le savez, mais c'est dans toute l'Europe, c'est pas seulement en France, et ça part de l'Italie. Quelle est la particularité des divertissements en France? Ben évidemment, c'est le mélange du théâtre français, qui était représenté par des auteurs extraordinaires comme Racine ou Molière, ou Corneille, hein, et évidemment le mélange d'opéra, de ballet. Hein. Le ballet était devenu une spécialité française, alors qu'à l'origine, le ballet n'était pas une spécialité purement française, et le ballet de cour, hein, bien entendu, et puis également les fêtes nocturnes et les fêtes organisées à Versailles. La particularité de... Je crois qu'il faut dire un mot sur Versailles quand même par rapport aux autres résidences royales. Avant l'installation définitive de Louis XIV à Versailles en 1682, la cour était itinérante. Elle allait d'une résidence à l'autre. Elle allait à Fontainebleau, elle allait à Chambord pour la chasse, elle allait à Saint-Germain-en-Laye. Louis XIV a séjourné beaucoup à Saint-Germain-en-Laye. Et elle allait aussi, au début du règne, elle séjournait aussi beaucoup à Paris. Mais ce qui est très curieux, c'est que la plupart des résidences étaient équipées d'un théâtre pour organiser des spectacles. Or, à Versailles, il a fallu attendre le mariage de Louis XVI, donc au milieu du XVIIIe siècle, pour qu'il y ait vraiment une salle permanente de spectacle.
Ce qui est étonnant, parce que généralement, on imagine Louis XIV, entre autres, sur les planches.
Alors, Carlo Vigarani avait bien prévu de construire une belle salle, mais malheureusement, les travaux ont été interrompus.
Ouais.
Et non, la particularité de Versailles, c'est le parc. On organise des fêtes, on organise des spectacles qui sont sur des scènes éphémères, des scènes provisoires. En fait, on tire parti beaucoup pour les fêtes, les spectacles, de l'extérieur, des jardins. C'est ça la grande particularité, la grande originalité de Versailles. C'est ce qu'on pourrait dire finalement quand on compare avec ce qui se passait autre part.
Alors il y a une chose qui est très importante dans votre ouvrage. Certes, nous évoquons Versailles. Versailles est majeur dans le règne de Louis XIV, mais Paris n'est pas délaissé. Et les nombreux spectacles qui sont organisés par le roi à Paris le montrent, votre ouvrage le montre.
Oui, mais alors c'est plutôt avant que le roi ne s'installe à Versailles et avant peut-être même les plaisirs de l'île enchantée. Bien qu'il y ait eu, vous avez raison, jusqu'en 1671, il y a eu des grands spectacles. On a donné Psyché dans la salle des machines qu'avaient construite les Vigarani en 1671. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus tard. Mais en fait, c'est surtout à l'époque de Mazarin qu'on organisait beaucoup des spectacles à Paris.
Alors, quelles sont, Jérôme Delagorce, les occasions de fêtes et aussi les types de fêtes que l'on peut distinguer? C'est ce que je vous propose de voir après une première pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jérôme Delagorce qui est venu au micro de Canal Academy pour cette semaine consacrée à Versailles en cette période d'ouverture de la Galerie des Glaces au grand public à partir du 25 juin. Et Jérôme Delagorce, vous êtes venu nous parler de Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV. Il s'agit d'un livre que vous avez écrit, paru chez Perrin en collaboration avec le Château de Versailles dans la collection. D'ailleurs, les métiers de Versailles. Avant cette pause, je vous posais cette question. Quelles fêtes distingue-t-on et quelles sont les occasions de fêtes?
Alors, il y a plusieurs spectacles, parce que les fêtes peuvent réunir plusieurs divertissements différents. Hein. Par exemple, dans les grandes fêtes de Versailles, vous avez à la fois le carrousel, la comédie et le ballet.
C'est-à-dire que les fêtes pouvaient durer plusieurs jours aussi.
Voilà. Mmh. Alors, les plaisirs de l'île enchantée, qui constituent la première grande fête organisée à Versailles en 1664, elle se déroule sur 3 journées consécutives. La fête de 1668, qui est également très célèbre, ne se déroule que pendant une seule journée. On pourrait dire même seulement pendant une nuit. Les grandes fêtes de 1674, en revanche, sont étalées pendant 2 mois à des dates qui sont beaucoup moins rapprochées. C'est-à-dire qu'on pouvait attendre une semaine avant d'assister à la seconde fête. Donc ce sont des journées qui sont étalées sur 2 mois. Donc il y a une grande diversité. Il y a une très grande diversité. Il y a non seulement une grande diversité dans les fêtes qui sont organisées à Versailles. Encore, je ne vous parle que des plus connues, mais il y en a beaucoup dont on ne parle jamais et qui ont été également très importantes. En 1665, par exemple, un an après les plaisirs de l'île enchantée, on a organisé dans le parc de Versailles une fête qui a duré également toute une nuit, qui a été tout à fait étonnante. Une fête à laquelle ont collaboré Molière, Lully, Mademoiselle Desjardins, qui était un auteur dramatique féminin, Vigarani, évidemment. Donc, si vous voulez, on trouve d'autres fêtes qui sont également moins connues, mais à chaque fois, on trouve des divertissements qui sont extrêmement variés et différents.
Il y a toujours une occasion de fête, c'est la naissance du grand dauphin, la naissance d'un autre enfant royal, le mariage, que sais-je encore ?
Ah, évidemment, tout ce qui rythme la vie de la famille royale, les naissances, les mariages peuvent évidemment susciter des fêtes. Mais là, pour l'époque de Louis XIV, finalement, il y a d'autres occasions. Ça peut être évidemment la proclamation de la paix en 1668. Ça peut être aussi le désir du roi d'éblouir sa dernière conquête féminine. Ça peut être également des conquêtes. Hein, en 1674, c'est pour la reconquête de la Franche-Comté qu'on a organisé les grandes fêtes à Versailles. Donc ça peut être également, et c'est souvent même, des événements politiques. Ce n'est pas seulement des événements qui sont liés à la vie de la famille royale.
Alors vous présentez tous ces types de fêtes, le carrousel, le festin, la comédie-ballet, le ballet tout court, oui. Évidemment les feux d'artifice. Quelles sont les grandes différences entre ces différentes fêtes ?
En fait, ces divertissements font appel à des techniques différentes et sont différents par leur nature. Un carrousel, c'est une compétition équestre, sportive, je dirais, qui était déjà en vigueur dans d'autres pays d'Europe et qui s'est prolongée en France jusqu'en 1685-1686. Le dernier grand carrousel a été organisé à Versailles pour le dauphin, le grand dauphin, en 1686. Vigarani n'y a pas participé. Mais en revanche, Vigarani a participé au plus célèbre des carrousels, celui qui a été organisé entre le Louvre et les Tuileries pour la naissance du dauphin en 1662. C'est d'ailleurs depuis cette époque qu'on appelle cet endroit la place du carrousel.
Ouais. Il y a une véritable mise en scène politique, hein, parce que lors des carrousels, le roi, bien évidemment, est sur la scène, si je puis dire, mais il n'est pas le seul. Toute la famille royale y participe. Enfin, alors, non pas toute la famille royale, mais plusieurs membres de la famille royale.
Pour les carrousels, ce sont plutôt les courtisans. Il n'y a que pour le dernier carrousel en 1686 qu'on voit paraître des dames qui accompagnent les cavaliers pour les compétitions sportives. Mais généralement, ce sont uniquement des cavaliers et ce sont des membres de la cour, de la famille royale. Et il peut y avoir des membres de la famille royale, bien sûr, mais très souvent, ce sont des courtisans, des princes.
Alors donc,
et chacun payait son costume.
Ouais.
Il coûtait très cher.
Ouais. Alors donc, il y a bien évidemment un message politique dans chacun de ces carrousels.
Alors le premier, évidemment, c'est évident, puisque Louis XIV apparaît en empereur romain, entouré de 4 autres quadrilles, on appelait ça les quadrilles, c'est-à-dire chaque équipe qui était appelée à se confronter et qui symbolisait diverses parties du monde. Vous aviez les Africains, alors lui, il était à la tête des Européens, mais il y avait évidemment l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, enfin, les principales parties du monde. Et en fait, il symbolisait, c'était le centre évidemment de l'univers.
Alors, on imagine qu'un carrousel devait mettre en scène des dizaines, si ce n'est même, je crois, des centaines de chevaux, parfois.
Oui, il y avait des défilés. Enfin, pour le fameux carrousel organisé pour la naissance du dauphin, on a fait défiler des centaines de chevaux dans les rues de Paris avant l'organisation de la compétition Place du Carrousel.
Alors, justement, c'est très important. Vous allez voir où je veux en venir. On imagine que si les chevaux se promènent et se montrent dans toutes les rues de Paris, tout le monde peut y assister. Donc, il y a des spectacles populaires qui sont organisés par la monarchie auxquels tout le monde peut assister et d'autres spectacles, au contraire, qui sont beaucoup plus restreints.
Oui, il y a des spectacles plus ou moins privés. Mais il y a une évolution. Pas tellement pour le ballet de cour, ni pour les carousels, parce que comme vous l'avez dit, évidemment, on pouvait imaginer qu'une partie du peuple pouvait pénétrer dans l'emplacement de cette grande place du carousel. Mais par exemple, pour les ballets, dès l'époque de Louis XIII, les grands ballets ne sont pas uniquement réservés à la cour. On invite les membres du Parlement, les membres de l'université, les grands corps donc de la ville sont invités. Et petit à petit, on laisse entrer, même pour les représentations de Psyché en 1671, Louis XIV fait exprès de laisser des représentations réservées à la ville. C'est-à-dire que la cour n'assiste pas aux représentations de cette pièce de Molière, de Lully et de Corneille, mais laisse le peuple de Paris. Et ça, c'est la London Gazette qui nous relate ça. Donc, c'est très amusant parce qu'on apprend ces détails quelquefois par des périodiques qui sont publiés hors de France. Et c'est le cas pour Psyché. Et on sait que grâce à cette London Gazette, qu'il y avait des représentations auxquelles la cour n'assistait pas et qui étaient réservées donc à la population de la ville. Et qui était gratuite.
Je reçois Jérôme de Lagorce, auteur du livre Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV, un ouvrage paru chez Perrin en coédition avec le château de Versailles. Alors, revenons-en à justement ce personnage qui organise ces fêtes. Ces fêtes, d'ailleurs, s'organisent sur combien de temps ? Est-ce qu'il faut s'y prendre largement en avance pour pouvoir les organiser ? Ou Louis XIV, j'allais dire, dans un élan absolu, si je puis dire, demandait que l'on organise des fêtes la semaine et la rapidité de fêtes jouait beaucoup ?
Ça pouvait varier. Les grandes fêtes, évidemment, il fallait mieux les organiser longtemps à l'avance, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance. Mais Vigarani a malheureusement été, pendant toute la période la plus brillante du règne personnel de Louis XIV, il a été, harcelé un peu par le roi pour se presser, pour organiser des scènes éphémères dans ses résidences, dans le parc de Versailles. Et ça tenait quelquefois un peu de l'exploit de la part de cet ingénieur, de ce décorateur, de pouvoir organiser ces fêtes aussi rapidement. Et Louis XIV, s'il y avait des choses qui n'étaient pas très réussies, on le sait que quelquefois il y avait des choses qui n'étaient pas très réussies, des machines qui ne fonctionnaient pas bien, ou on a des détails à ce sujet. Mais Louis XIV n'en tenait pas rigueur. Par exemple, pour les grandes illuminations du grand canal de Versailles. Nous avons une documentation exceptionnelle, d'ailleurs, aux Archives nationales à propos de ce divertissement. Ce divertissement a été l'un des plus beaux des grandes fêtes de 1674. Et Louis XIV a voulu réorganiser ces grandes illuminations. Et là, Vigarani a eu du mal à reprendre ce divertissement. Pourquoi ? Parce que tous les éléments étaient plus ou moins en papier et avec l'humidité, avec la pluie, avec le vent, c'était très difficile de rétablir toutes ces illuminations comme le souhaitait Louis XIV. Et finalement, la seconde fois, ça n'a pas été tellement bien réussi. Alors Louis XIV lui a dit « Mais prenez votre temps, on va recommencer encore une fois ». Mais il n'en tenait pas rigueur du tout. Il comprenait parfaitement qu'il y avait des problèmes liés à la météo, à toutes sortes. Et puis, il n'y avait pas de magasin pour engranger, si vous voulez, toutes ces décorations en papier. Il y avait beaucoup d'effets de transparence. On créait des décors sur papier et on mettait derrière toutes sortes de sources lumineuses. et on avait l'impression que tout était lumineux dans la nuit. C'était tout à fait étonnant. On a tous les détails. Hein. Heureusement, grâce aux archives, on a tous les détails.
On est vraiment impressionné à la lecture de votre ouvrage par ces nombreux effets spéciaux ici et là sur des scènes de spectacle, sur les scènes de ballet, de comédie, qui se multiplient et qui sont très originales. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre.
Il y avait une très grande variété de techniques qui étaient utilisées à l'époque pour mettre en valeur les œuvres qu'on voulait représenter, les œuvres théâtrales. Bon, il y avait des techniques qui étaient habituelles pour renouveler les châssis latéraux, des décors, parce que les changements de décors de théâtre avaient lieu au coup de sifflet. À vue, il n'y avait pas d'entracte, on ne baissait pas de rideau entre les actes. Les spectacles avaient lieu de manière continue. Hein, et on assistait au changement de décor directement sur la scène. Donc tout ça était très bien étudié. Mais il y avait également toutes sortes de techniques pour mettre en valeur donc tous ces décors éphémères. Il faut penser que l'électricité a complètement bouleversé notre notion des spectacles. Avant l'électricité, on utilisait des chandelles, on utilisait des bougies, on utilisait d'autres sources lumineuses qui étaient moins violentes. Et donc, il fallait trouver un moyen de capter la lumière. Alors, on utilisait de la peinture dorée, on utilisait de l'argent, on utilisait des plaques d'acier. Tout était bon. On utilisait même des feux d'artifice. Il y avait des artificiers pour l'opéra, pour les théâtres. Et donc, il y avait une grande variété de techniques qui étaient mises à la portée des scénographes pour mettre en valeur les spectacles. Ça devait être magique.
Jérôme Delagorce, nous nous retrouvons dans un instant.
Partez à la découverte du château de Versailles. Dans un programme spécial, Canal Académie vous offre une visite privée de Versailles. Avec Mathieu Davina, historien, chercheur au centre de recherche du château, vous serez guidé dans le grand appartement du roi, dans l'appartement de l'étiquette, dans celui de la reine et dans les lieux de confort et d'hygiène de la résidence royale. Vous seront également présentés le hors-série du Figaro sur la Galerie des Glaces, dont la restauration fait événement, et le livre de Jérôme Delagorce sur les fêtes à Versailles. Retrouvez Versailles au temps de sa splendeur avec les émissions originales spécialement réalisées pour vous par la rédaction de Canal Académie et disponibles dans notre médiathèque.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée au divertissement à l'époque de Louis XIV à travers cette personnalité fascinante, hein, Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV. Il s'agit, Jérôme Delagorce, de votre biographie parue chez Perrin, coéditée avec le Château de Versailles. On a l'impression que Carlo Vigarani est un maître de l'illusion. Au début de la lecture de votre ouvrage, c'est un architecte et au fur et à mesure de cette lecture, on imagine les spectacles que vous présentez dans le détail dans votre livre. C'est un maître de l'illusion et le public est impressionné.
C'était un grand scénographe, un grand décorateur qui connaissait évidemment très bien son métier. C'est pour ça qu'il a sa place, je crois, dans cette collection consacrée au métier de Versailles. Comme je vous l'ai dit, c'est un métier qu'il avait appris en Italie, les Italiens étant évidemment les grands spécialistes du trompe-l'œil, des illuminations, du décor. Et en même temps, il y avait ces connaissances extrêmement précises concernant l'architecture pour intégrer justement toutes ces scènes dans des cadres qui étaient fixes cette fois-ci.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1664, ce sont les plaisirs de l'île enchantée. C'est une consécration pour lui ?
C'est le début de sa célébrité. Mais ça consacre effectivement sa célébrité aussi dans la mesure où c'est la première grande fête organisée dans le parc de Versailles. Et il s'occupe de tout. C'est lui qui est l'inventeur des plaisirs de l'île enchantée. On a dit que c'était le premier gentilhomme de la Chambre du Roi. Vous savez que les premiers gentilhommes de la Chambre du Roi étaient chargés de l'administration, à tour de rôle évidemment, des menus plaisirs, c'est-à-dire de ce département de la Maison du Roi qui était chargé des spectacles, des fêtes et des cérémonies. Et en fait, Saint-Aignan, qui s'est occupé des plaisirs de l'île enchantée, s'est contenté de donner un thème littéraire à la fête. Il s'est référé du reste au Roland Furieux de l'Arioste, mais en fait, c'était pour lier des divertissements qui avaient été pensés par Vigarani, c'est-à-dire la juxtaposition de divertissements différents, c'est-à-dire d'un carrousel, d'une comédie et d'un grand ballet organisé pendant 3 jours dans le parc de Versailles. Et ce qui est extraordinaire chez Vigarani, c'est que ce parc qui venait d'être créé par le nôtre, qui venait d'être dessiné, il a été modifié par la suite. Mais il y avait déjà cette grande allée qui partait de la façade principale du château et qui descendait dans le parc jusqu'au bassin des Cygnes. Maintenant, on appelle ça le bassin d'Apollon, mais à l'époque, c'était le bassin des Cygnes. Et il y avait déjà cette grande perspective. Et finalement, Vigarani s'est servi absolument de cette perspective comme d'une grande perspective de théâtre. Il a monté en scène, finalement, il a créé une mise en scène des jardins de Versailles. Et les 3 divertissements ont été organisés dans cette perspective principale devant le château de Versailles.
Ah oui, il y a des chars, évidemment. Il y a aussi des animaux.
Il y a des animaux fins, quelquefois, et quelquefois véritables. Bon, alors évidemment, dans le carrousel, il y a des chevaux. Mais pour le buffet qui est organisé lors de la première journée, on voit apparaître plusieurs membres de la troupe de Molière sur des animaux qui sont évidemment fins. Je ne pense pas que certaines actrices de la troupe de Molière seraient montées sur un ours ou peut-être sur un éléphant. Je ne sais pas, on a raconté qu'on avait fait venir un éléphant de la ménagerie, mais je ne pense pas que ce soit vrai. En fait, en Italie, on sait déjà qu'on pouvait métamorphoser des chevaux en éléphants. On transformait les chevaux en éléphants. Et je pense que pour l'ours, c'était des hommes qui étaient costumés. Et donc, tout ça était tout à fait, courant dans les fêtes européennes. Et Vigarani s'inspire également des fêtes qui avaient été organisées à Florence par les Parigi au début du XVIIe siècle. Et dans ses Plaisirs de l'île enchantée, on voit bien qu'il s'inspire notamment à la fin pour le grand ballet d'Alcine qui est organisé sur le bassin des Cygnes, donc en bas de l'allée royale. Il s'est inspiré d'une fête qui avait été organisée sur l'Arno, donc au début du XVIIe siècle, par Giulio Parigi. Et il a repris pratiquement le même dessin pour les baleines qui flottent sur le bassin. Il a repris à peu près le même dessin pour ces grandes baleines lors de la fête. Et il a repris les mêmes dessins qu'avait imaginé finalement Parigi à Florence au début du XVIIe siècle.
Alors, consécration pour Vigarani, et qui dit consécration dit obligatoirement rivalité. Il va avoir beaucoup de rivaux, Vigarani, par la suite.
Ah, il a eu une carrière mouvementée, oui, ça ne s'est pas passé si facilement que ça. Il y a eu évidemment très vite des Français qui ont voulu prendre sa place. Bon, en tant que spécialiste italien, il jouissait évidemment d'un certain prestige auprès du roi. Mais bientôt, petit à petit, pour la fête de 68, par exemple, d'autres artistes ont voulu participer et ont participé effectivement à ses côtés. Le plus célèbre étant Charles Lebrun. Charles Lebrun, c'est à partir de 1674. Mais auparavant, il est évident que quelqu'un, l'architecte Levaux, et surtout le dessinateur du cabinet du roi, qui imaginait les costumes de scène pour les pièces de Molière, a également joué un certain rôle pendant la fête de 1668. C'est à lui qu'est revenu le soin d'imaginer également les illuminations du parc de Versailles. Donc, petit à petit, évidemment, il y a d'autres artistes qui ont essayé de prendre sa place. Et quand Le Bernin est venu à Paris en 1665, il a également intrigué auprès du roi pour essayer de prendre la place de Vigarani. Ça ne s'est pas très bien passé. La rencontre entre les deux artistes, et je le raconte, tu restes dans le livre, et je me réfère évidemment à la relation de voyage par Chanteloup, la relation du voyage du Bernin en France en 1665. Mais il y a des lettres également conservées à Modène, des lettres de Carlo Vigarani, où il raconte tous les problèmes qu'il a connus avec le Bernin. Le Bernin était terrible, c'était quelqu'un, c'était un génie, personnage extraordinaire, qui était beaucoup plus âgé, mais qui avait une vigueur étonnante encore, et qui n'a pas hésité à intriguer pour essayer d'évincer Vigarani.
Alors, vous avez écrit une autre biographie, une biographie de Lully, hein, qui a été primée par l'Académie des Beaux-Arts, une biographie parue aux éditions Fayard. Vigarani a été associé un temps à Lully.
Oui, il a été l'associé de Lully quand Lully a obtenu le privilège de l'opéra et quand il s'est installé donc à Paris pour donner des spectacles d'opéra. Et il avait besoin d'un architecte et d'un décorateur. D'un architecte d'abord pour transformer la salle du jeu de paume de Becket qui était à côté du palais du Luxembourg en salle de spectacle. Et également d'un scénographe talentueux. Donc, comme il avait travaillé avec Vigarani pendant de nombreuses années pour les comédies-ballets de Molière, il ne faut pas oublier que pendant toute une période, Lully collabore avec Molière aux comédies-ballets, et Vigarani fait partie de cette équipe et crée toutes les mises en scène des spectacles montés à la cour. Donc, ils se connaissaient et pendant 8 ans, Lully et Vigarani seront associés à l'opéra. Mais ça ne s'est pas tellement bien passé. Lully était un homme d'affaires redoutable et il semblerait que Vigarani n'ait pas retiré les gains qui lui revenaient, en fait.
Alors, nous arrivons, Jérôme Delagorce, au terme de cette émission. Peut-être 2 dernières questions. L'année 1685 est une année importante. Le roi est sous l'influence de Madame de Maintenon. Le roi devient de plus en plus dévot. Est-ce cette nouvelle dévotion du roi qui met un peu à l'écart Vigarani ?
Ah, c'est évident. Elle ne met pas seulement à l'écart Vigarani, elle met d'abord Lully à l'écart. En plus, Lully avait créé un scandale à la cour en débauchant son page. Enfin, ça avait été un scandale retentissant. D'une part, Lully connaît une certaine disgrâce auprès de Louis XIV. Et d'autre part, sous l'influence de Madame de Maintenon, le roi se détourne progressivement des spectacles. Et la grande salle de spectacle que Vigarani avait projeté de créer à Versailles ne sera jamais achevée. On a les plans, il reste pas mal de plans même qui sont conservés, et on sait qu'à partir de 1685, on commence les travaux dans l'aile du Nord, et petit à petit, les travaux ne progressent pas, et les travaux seront interrompus à cause, on dit, de la guerre. Vous savez que les guerres entraînaient des dépenses considérables. Mais moi, je remarque quand même que la grande chapelle a quand même été bien construite et que la salle de spectacle n'a jamais été terminée. Et finalement, après, elle a été transformée pour des appartements. Elle a été transformée, on l'a supprimée. Attendre Gabriel pour avoir une véritable salle de spectacle à Versailles.
Alors, Béatrix Saul, qui est conservatrice en chef et directrice du centre de recherche du château de Versailles, dit de Vigarani, elle a une belle expression, elle l'appelle le roi de l'éphémère.
Oui, ça lui convient tout à fait, parce que c'est lui qui a fait rêver la cour et d'abord Louis XIV. C'est évident qu'il a eu un rôle très important. Et encore une fois, je le dis, malgré cette fin de carrière qui est un peu triste, malgré l'abandon de la salle des ballets à Versailles, Louis XIV a toujours reconnu Vigarani, il l'a toujours protégé, même quand il est mort en 1713, donc 2 ans avant la mort de Louis XIV. Louis XIV même prévoit de donner une pension à la veuve de Vigarani, donc vous voyez jusqu'à quel point il avait de l'estime pour cet artiste. Aujourd'hui, on l'a oublié. On a du mal à prononcer son nom, Vigarani. Très souvent, son nom est écorché en Vigarini. Évidemment, c'est une erreur. C'est Vigarani. C'est-à-dire qu'il y a un accent normalement tonique qui vient s'installer sur la 3e syllabe. Donc, on l'a un peu oublié. Mais c'était quand même quelqu'un qui a eu un rôle très, très important à la cour de Louis XIV, surtout pour le début du règne personnel de Louis XIV et ce que l'on appelle le premier Versailles, la naissance de Versailles. Pierre de Nolhac l'avait vu déjà, il le signale. Mais on ne peut pas.
Pierre de Nolhac qui a été chargé du début de la restauration de Versailles à la fin du 19e siècle.
Voilà, il le mentionne. Mais il n'y avait jamais eu de monographie complète. On le citait, mais finalement, on ne savait pas très bien qui c'était, où il était né, on ne savait pas. Donc, j'ai fait toutes ces recherches et je pense que cette fois-ci, on a une idée quand même beaucoup plus précise de cet artiste qui occupe une place importante aux côtés de Lully, autres Italiens, et puis de Molière, évidemment, de tous ces gens qui ont fait la réputation de cette cour si brillante au début du règne personnel de Louis XIV.
Eh bien, je vous remercie, Jérôme de Lagorce, d'avoir d'abord comblé hein, ce vide et d'être venu présenter ce personnage fascinant, Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV, un ouvrage paru chez Perrin, coédité avec le Château de Versailles, ainsi que votre biographie de Lully, parue chez Fayard. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire sur Canal Académie.